Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne qui scrute toutes les dimensions de l'événement 7 octobre. Et notre entretien aujourd'hui est réalisé en partenariat avec Chauffard. Bonjour Gabriel Lévy.
Bonjour Antoine.
Vous êtes fondateur, animateur de ce fameux site, ce média Chauffard qui diffuse depuis plus de 3 ans maintenant des vidéos sur le judaïsme, l'histoire juive, sur les réseaux sociaux, dans le but de toucher un public jeune et parfois assez éloigné de la tradition. C'est un partenariat qui va permettre donc à nos auditoires respectifs de faire connaissance avec nos productions, qui sont des productions différentes quant à leur visée, mais qui sont inspirées du même souci d'éclairer les événements en cours. Alors j'imagine, Gabriel Lévy, que depuis le 7 octobre, Chauffard a changé de régime, à la fois pour la diffusion et aussi pour l'écoute. Qu'est-ce que vous constatez de votre poste d'observation, qui est très intéressant puisque vous avez une vision globale de ce qui se passe dans toute une partie du monde juif? Qu'avez-vous constaté sur les réseaux sociaux donc depuis le 7 octobre?
La sensation, c'est que alors que 70% des personnes qui écoutent Chauffard sont en France, l'impression, c'est qu'on vibre ensemble. L'impression, c'est que la douleur qu'on a vécue le 7 octobre, puis l'engagement post-7 octobre, est complètement vécue à l'unisson aussi parmi les jeunes juifs en France. Nous, on a essayé de se focaliser sur à la fois un effort pour prendre la défense d'Israël dans ce conflit, et aussi on a essayé de montrer toute la lumière et toute la bravoure, tout le don de soi, toute l'unité aussi qui se révélait justement dans cette période difficile dans le peuple. Et nos vidéos ont jamais été aussi virales. On a des vidéos qui dépassent les 400, 500 000 vues sur Facebook, Instagram, etc. Et en fait, tout simplement, ce qu'on voit, c'est que le public francophone, juif, partage, a envie de faire partie de ce qui se passe, ressent avec nous, vibre avec nous.
Alors, vous inscrivez votre démarche dans la lignée du Rav Kook, du Maharal de Prague aussi. Vous avez donné récemment une conférence sur le thème « Qu'est-ce que la période exige de nous ?» Effectivement, le peuple juif, dans son ensemble, se trouve confronté de manière aiguë et parfois abrupte, comme ça, à la question de savoir quel est finalement son rôle dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse à cette question ? Qu'est-ce que la période exige de nous, Gabriel Lévy ?
Déjà, c'est un titre qui est un titre un petit peu ambitieux. Mais on se doit, même si je pense que c'est l'événement qu'on a vécu, c'est un événement qui va avoir un impact sur des générations. C'est un événement d'une ampleur et d'un impact qui est extrêmement fort et important sur le peuple juif de manière générale. Pour autant, on peut essayer de commencer à réfléchir à ce que ça... Comment réussir à prendre cet événement-là et le transformer en un vecteur de progression, en un vecteur de dénouer aussi beaucoup de problématiques qu'on avait dans le peuple ces derniers temps. Et pour ça, pour structurer la pensée, j'ai pensé à trois axes qu'on pourrait appeler trois alliances au sein du peuple juif. Alors d'où viennent ces trois axes? Les deux premières alliances sont les alliances dont parlait le Rav Soloveitchik, qui s'appelle Brit Goral et Brit Yehoud, c'est-à-dire l'alliance de destinée et l'alliance de mission ou de rôle. Et la troisième alliance vient d'un penseur contemporain qui s'appelle le Rav Chaim Vidal, qui parle de l'alliance du chemin. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que sont chaque chose. La première alliance dont parle le Rav Soloveitchik, qui est l'alliance de destinée, il s'agit en réalité de cette sensation du fait qu'on est une seule et même entité, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait choisi ou non, qu'on partage les mêmes avis ou non. Le peuple d'Israël est une seule et même entité, partage une destinée. Ça lui est rappelé des fois par ses ennemis, mais c'est quelque chose de plus profond. C'est pas juste que l'antisémite nous rappelle, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de quasiment ontologique, qui est le fait qu'on appartient à une espèce de grand corps, à une même famille. Et donc, ça explique aussi le fait que quelqu'un qui habite aujourd'hui en France a vécu le 7 octobre dans sa chair. Parce que fondamentalement, on se rend compte qu'on appartient à une même entité. Et donc, lorsqu'on souffre ici, partout dans le peuple juif, on ressent cette souffrance-là, et l'engagement que dans la diaspora, la volonté d'aider, la volonté de participer est incroyable. Ce qu'on a vécu ici dans le peuple juif, le sursaut d'aide, ça va être préparer des repas pour les soldats, aller accompagner les familles qui ont été déplacées et les familles en deuil, etc. On le ressent aussi avec la diaspora. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette alliance-là qui est une alliance organique de, qu'on le veuille ou non, qu'on pense la même chose, on appartient à cette même entité, à cette même famille, et ça se ressent particulièrement en ce moment. La deuxième alliance, c'est ce que le Rav Soloveitchik appelait l'alliance du Yehoud. Le Yehoud, on peut appeler ça le rôle, la mission. Et chez le Rav Soloveitchik, ça va être évidemment l'alliance qui va passer à travers la Torah, à travers l'alliance du Sinaï, à travers ce qu'on doit représenter dans le monde, le modèle civilisationnel qu'on doit pouvoir incarner dans le monde, les valeurs qu'on a. Et sur ce point-là, c'est sûr que ces derniers mois, c'était peut-être le point de déchirement le plus important dans le peuple juif. Et de manière plus générale, ces 200 dernières années, le peuple juif a un rapport qui est un rapport complexe à ses sources, à son identité, à son message, à sa pratique. Et certains veulent s'en éloigner, certains se sentent menacés par cette tradition-là. Et il y a un enjeu, à mon avis, à notre époque, d'être capable de vivre cette tradition et vivre ce message, non pas comme une menace, mais comme une richesse. Et si on est capable de faire ça, ça demande un travail des deux côtés, à la fois de ceux qui sont anti, à la fois de ceux qui sont pro, si on est capable de faire ce travail des deux côtés, alors ça apaisera énormément de tensions dans le peuple juif, et on pourra peut-être embrasser l'identité juive telle qu'elle se dessine.
Préciser peut-être un petit mot sur cette mission, ce rôle-là, est-ce que vous pouvez le définir peut-être plus concrètement pour qu'on voit de quoi il s'agit?
C'est de l'ordre de dire toute la Torah sur un seul pied. Le peuple juif est depuis sa création, en tout cas d'après nos textes, n'est pas juste une réalité tribale ou ethnique, etc., mais se vit comme étant un vecteur d'une parole. Et pas juste en étant le peuple du livre, pas juste en ayant une espèce de mode d'emploi, mais en le vivant, en l'incarnant. En l'incarnant à la fois au niveau des valeurs de vie, au niveau de l'individu, mais aussi au niveau du collectif. Et c'est pour ça que le retour du peuple juif sur sa terre, qui se passe ces 150 dernières années, est quelque chose qui a une dimension aussi d'un point de vue de la pensée juive, parce que ça veut dire qu'on peut à nouveau reprendre notre rôle sur la scène de l'histoire et qu'on peut à nouveau incarner ce message sous forme de société et pas uniquement sous forme de ghetto ou de communauté au sein de notre société, mais on peut proposer ce que le peuple juif a à dire au niveau d'une civilisation.
Est-ce qu'il s'agit par exemple de trouver une possibilité de montrer un modèle où le collectif très fort n'est pas compatible avec le respect absolu des individualités, par exemple, résoudre cette contradiction que tout le monde rencontre?
Entre autres, mais il y a tellement de richesse en réalité dans ce message-là, si on est capable de le voir sans tension et sans se sentir menacé. Et à nouveau, je comprends pourquoi le public laïque s'est senti menacé, et je comprends que le judaïsme qui lui a été présenté n'était pas forcément un judaïsme qui était adéquat, qui était réfléchi, qui montrait sa lumière. Mais en réalité, je pense que le message juif a quelque chose qui est non seulement qui peut apporter, mais qui en réalité est quasiment indispensable pour une conscience moderne. On vit aujourd'hui dans des sociétés qui ont énormément de points positifs, des sociétés qui mettent en avant des valeurs importantes, qui sont des valeurs d'empathie, des valeurs d'égalité, des valeurs de liberté, etc. Mais il y a certains pans de la vie humaine auxquels nos sociétés ne répondent pas, ou ne répondent plus. Par exemple, la dimension de sens, de signification. Pourquoi on est là? Lorsqu'on voit des sociétés qui ont des problématiques de natalité extrêmement, extrêmement faibles, c'est quelque chose qui est intéressant, qui interroge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici dans notre rapport à la vie? Et je pense que sur ce point-là, ce que le judaïsme a apporté à la fois au niveau du macro, du sens qu'on donne à la vie humaine, mais aussi au niveau du micro, de comment on arrive à, entre guillemets, discipliner les différentes forces qu'on a en nous, comment on arrive à extraire la qualité d'être en potentiel qu'on a, mais qui peut aussi complètement s'exprimer de manière chaotique. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de richesses dans le message juif, et il faut arriver à surmonter une période un peu post-traumatique dans le peuple juif où on a l'impression que revenir à nos sources, ça signifierait quelque chose d'archaïque, quelque chose qui écraserait certaines libertés, etc. Et au contraire, embrasser les richesses, et ça c'est un vrai travail, on essaye aussi avec Shofar de montrer ça, c'est un vrai travail d'être capable de proposer ces richesses-là, et de parler un langage qui est audible.
J'oublie pas la troisième alliance, donc alliance que vous avez appelée du chemin. De quoi s'agit-il?
Alors, l'alliance du chemin, donc ça c'est déjà plus dans le Rav Soloveitchik, c'est un ajout qu'a fait le Rav Chaim Vidal il y a quelques années, et que je trouve très, très juste. L'alliance du chemin, c'est le fait de dire que on est ensemble dans le même bateau, comme on a dit dans la première alliance, mais au final, il faut trouver une manière de dialoguer au sein du pluriel dans ce bateau-là. Parce que on est ensemble. C'est un peu comme une vie de famille où on est ensemble, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, et comment on fonctionne dans cette vie de famille pour que ça marche et pour que les tensions ne deviennent pas invivables. Et je pense qu'on a vécu avant le 7 octobre, et le 7 octobre marque un peu un point d'un switch où on n'a pas envie de revenir à ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre, on a vécu une très mauvaise hygiène de gestion du pluriel. Où le ton était donné par, en grande partie, à la fois les médias et à la fois le monde politique, dans une caricaturisation de l'opposant, une caricature constante de ceux qui ne sont pas comme nous et qui n'ont pas forcément le même système de valeurs, le fait de prendre ce qui nous dérange, les extrêmes, dans l'autre public et en faire l'unique point de réflexion, en fait. Et donc, en fait, on est dans un discours qui est un discours qui est disqualifiant. Au lieu de voir le pluriel comme des avis qui sont différents et voilà, je vois qu'il y a une intuition morale chez toi, il y a une intuition morale chez moi, on essaie de voir comment ces choses-là peuvent s'équilibrer. Au final, l'autre est disqualifié. D'accord? Donc, on va entendre dans un discours de gauche, en parlant de la droite, qu'on parle de fasciste, homophobe, machiste, etc. Donc, on a une liste d'adjectifs disqualifiants. On va entendre à droite, en parlant de la gauche, qu'on est face à des post-sionistes, traîtres, etc. Et à chaque fois, en montrant, à travers une citation, à travers une personne particulièrement extrême dans l'autre camp, on va mettre ça en avant. En parlant, par exemple, du monde orthodoxe, on va parler de parasites ou je ne sais quoi. Donc, on va utiliser un langage qui est disqualifiant et qui, au final, ne permet pas au pluriel de fonctionner. Dans une vision, par exemple, qui est la vision du Rav Kook, mais je pense que c'est du bon sens, il y a une conception dans laquelle le pluriel qui existe dans le peuple juif a sa place et a son rôle. C'est important et c'est intéressant qu'il y ait des sensibilités morales différentes. Sauf que, et c'est à nouveau, je pense qu'il faut arriver, sauf qu'il faut être capable de passer dans un champ lexical qui est un champ lexical peut-être un petit peu plus familial. Est-ce que je suis capable d'avoir une espèce de confiance que l'autre n'est pas cette caricature, mais que l'autre est quelqu'un qui a une bonne intention, qui veut le bien pour l'homme, le peuple d'Israël, etc., et qui a une intuition un peu différente de la mienne, et je suis capable d'écouter, et il faut parfois de pas être d'accord, je ne disqualifie pas. Ça demande, à mon avis, un switch important au niveau du monde politique. Parce que le monde politique est fondamentalement polarisant. Parce qu'il y a voter pour nous et ne votez pas surtout pour eux parce que les autres sont si problématiques que ça. Donc forcément, on va avoir un intérêt à montrer à quel point l'autre est problématique. Donc je pense que là-dessus, post 7 octobre, lorsque tout le monde se bat ensemble, c'est ce qu'on a vu, il faut qu'on garde ces images-là de personnes des colonies qui vont aller sauver des kibbutzim. ou à l'inverse, des gens comme Yair Golan d'extrême gauche de 60 ans, un général de 60 ans qui allait sauver des soldats de Yeshivot SDR et qui a combattu avec eux des soldats religieux, etc. Si on arrive à vivre avec cette évidence-là, on est dans le même bateau, on a des intentions qui sont des intentions qui sont bonnes, et on refuse de se polariser, de se caricaturer, alors à mon avis, on aura une possibilité de parler différemment et peut-être qu'on arrivera à arriver à cette alliance de chemin. C'est-à-dire, comment faire le chemin ensemble? Quelles sont les règles du jeu qui permettent au chemin de se faire?
Alors justement, la question évidemment est ouverte de savoir si ce traumatisme du 7 octobre qui a eu les effets que vous avez dit va avoir véritablement changé en profondeur les états d'esprit. Bon, la question reste peut-être ouverte et l'inquiétude demeure malgré tout que tout revienne un peu comme avant. Mais est-ce qu'on a l'impression que tout ne peut pas revenir comme avant? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement, quoi qu'il arrive, pour la société israélienne et la vie politique israélienne, Gabriel Levy?
On a beaucoup de soldats qui témoignent que lorsqu'ils sortent, donc après 40 jours où ils n'ont pas ouvert leur téléphone de Gaza, et qu'à Gaza, ils se battent à côté de quelqu'un qui a fait de la yeshiva, et à côté de quelqu'un de droite, de gauche, etc., et ils sont frères d'armes, lorsqu'ils sortent et qu'ils ouvrent Twitter ou qu'ils ouvrent les chaînes de télé, le choc terrible de voir qu'on revient dans ces habitudes néfastes de caricature, de prendre la mauvaise expression chez l'autre et d'en faire le tout, ça va être un vrai combat. Et je pense que ça demande à nous, on demande à tous de réfléchir à comment mener ce combat, comment prendre cette fraternité, cette unité qui a jailli, et comment réussir à lui donner des moyens pour reformer le discours, pour reformer le débat. Je donne un exemple parce que c'est quelque chose auquel je suis moi particulièrement sensible. J'essaye, à titre personnel, de n'écouter principalement que des formats longs, en ce qui sont, par exemple, des podcasts dans le monde politique. Et surtout pas la télé. Parce que la télé, il y a cette volonté de piéger, on va dire, confronter la personne avec. Et que dites-vous sur telle personne qui s'est mal comportée dans votre camp, etc. Mais si on prend deux secondes le temps d'écouter, laisser la personne développer. C'est extrêmement intéressant, je vous donne un exemple. Récemment, j'ai écouté un podcast qui a été fait il y a quelques années entre Yair Lapid, donc centre-gauche, laïque, qui souvent est dépeint comme anti-religieux, et un enseignant qui s'appelle le Rav Chaim Navon, qui vient du monde sioniste religieux, un penseur très intéressant. Ils avaient fait un podcast ensemble. C'est un plaisir à écouter, et on se rend compte qu'il y a énormément de points communs et de points d'accord. Et Yair Lapid va dire, alors que, à nouveau, Yair Lapid est considéré comme quelqu'un d'anti-religieux aujourd'hui sur le monde politique, et je suis profondément contre certaines choses qu'il a incarnées dans le monde politique. Mais lorsqu'on l'écoute sur le long terme, sur les choses de long, c'est quelqu'un qui va être capable de dire: je veux pas de loi sur est-ce que on va vérifier mon sac lorsque je rentre à l'hôpital s'il y a du pain à Pessah. Je veux pas de loi qui oblige, mais je veux que dans les écoles, et je veux que mes enfants, et je suis terriblement déçu du fait que mes enfants n'aient jamais ouvert une page de Talmud dans leurs écoles. Ok? Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a un intérêt, il y a une volonté de connaître le judaïsme, mais j'ai pas envie forcément que ce soit exprimé de cette manière, de manière, on va dire, lutte de pouvoir, etc. Lorsqu'on écoute les gens sur du format long, on comprend quelque chose, on n'essaie pas de les piéger, on n'est pas... À mon avis, on doit reprendre une hygiène de comment vivre ce pluriel-là.
Voilà. Et bienvenue donc sur Mosaïque, Gabriel Levy, puisque c'est notre credo aussi à nous, évidemment, de laisser s'exprimer les personnes en pensant que c'est intéressant de savoir ce qu'elles ont à dire et non pas de forcément vouloir les contrer absolument ou les mettre devant des contradictions. Une question sur, vous avez parlé du monde laïque, une question sur le monde religieux en Israël. Il y a une bonne partie du monde orthodoxe qui est considéré comme asioniste. Est-ce que vous avez l'impression que là aussi, il est en train peut-être de, si je puis dire, monter dans le train de l'histoire et de prendre l'histoire en route de sortir de cette réserve, de cette distance qu'elles avaient avec l'État d'Israël, avec l'État hébreu?
Premièrement, je l'espère du fond du cœur. C'est très difficile sociologiquement de savoir exactement ce qui se passe. Est-ce que les voix qu'on entend sur les réseaux sociaux, est-ce que les magnifiques images de voisins ultra-orthodoxes qui vont célébrer le retour d'un soldat, etc. Est-ce que c'est une minorité? Est-ce que c'est une majorité? J'espère que c'est une majorité. La problématique qu'on a, à mon sens, c'est qu'on est face à des camps qui ont peur d'être changés. Et donc, le monde orthodoxe, à mon avis, a extrêmement peur que, on va dire, comme son image du début de l'État, où il y avait une espèce de court-retour, j'ai oublié comment on va dire en français, une espèce de volonté de l'État d'Israël d'uniformiser à travers une espèce de nouvelle identité juive, mais c'est quelque chose qui est tellement plus le cas. La société d'Israël est plurielle et traditionnaliste pour une grande partie, donc on peut plus parler vraiment de cette volonté d'uniformiser, mais il y a encore dans le monde orthodoxe une espèce de réticence, de peur d'être changé. Donc si on arrive un petit peu à apaiser ça, alors je pense que l'évidence du fait que on a la chance à nouveau d'exister sous forme de collectivité, on ne peut pas ne pas voir le caractère providentiel du retour du peuple juif sur sa terre, et encore plus des personnes qui pensent qu'il y a une providence dans ce monde, on ne peut pas ne pas voir le caractère providentiel. On ne peut pas, à mon avis, ne pas vouloir participer aussi aux efforts de ce pays, aux efforts de défense, c'est-à-dire on ne peut pas. Mais tout est toujours avec une tension et un stress de « ils vont vouloir nous changer et on va perdre cette espèce de trésor qu'on tient ». Et de l'autre côté, du monde laïque aussi, il y a une espèce de crainte, une espèce de tension du fait qu'on cherche à nous changer, on cherche à nous imposer. Et il faut vraiment réfléchir à comment on arrive à apaiser ces tensions pour faire en sorte qu'il y ait premièrement un vrai dialogue et que deuxièmement le monde orthodoxe soit capable d'intégrer la société israélienne pour lui apporter sa richesse et pour être aussi à l'écoute de ce qu'elle a à lui apporter, et que le monde laïque ne soit pas dans un rapport qui est un rapport de méfiance mais un rapport d'apprentissage. J'ai envie de connaître mon héritage, c'est aussi l'héritage de tout juif. Et s'il regarde le laïc de Tel Aviv, il y a 3 ou 4 générations, son grand-père était rabbin au Yémen ou en Pologne. Donc, c'est-à-dire que c'est au final, c'est aussi leur héritage. Il faut juste arriver à proposer un message qui soit audible et qui ne crée pas de tension.
Alors, je risque la question. Est-ce que ça nécessite pas aussi une manière finalement différente de recevoir et d'interpréter la Torah pour qu'elle soit précisément plus accessible à tout le monde, j'allais dire.
Premièrement, tout l'enjeu de la tradition juive, c'est une danse entre fidélité, continuité et capacité à s'adresser au présent. Il faut être capable de lier ces deux choses. Et cette mesure-là, est toujours le lieu en fait de discussion. Mon avis, et c'est tiré de la pensée du Rav Kook, c'est que le premier gros changement à faire, c'est le fait que aujourd'hui il y a une élite intellectuelle dans le peuple juif qui vient du monde orthodoxe, qui est extrêmement intéressante, mais elle n'est pas focalisée sur les deux problématiques de sens qu'on appelle en hébreu de marshava. Elle est focalisée sur des problématiques juridiques. Qu'on appelle halakha ou gemara. Et lorsque aujourd'hui on veut être audible pour une conscience moderne, on doit être capable de parler un langage qui est un langage de sens. En quoi le judaïsme fait sens? En quoi c'est pas juste une orthopraxie? En quoi c'est pas juste quelque chose d'extrêmement compliqué avec plein de règles du jeu qu'on comprend pas? En quoi il y a quelque chose qui est parlant, qui est capable d'éclairer des zones d'ombre que l'Occident comporte, que la modernité comporte, et ça demande à des gens d'être formés là-dessus. On a des textes qui sont brillants, qui demandent à être ouverts, et c'est, on va dire, un des grands cris du Rav Kook, un des grands appels du Rav Kook, c'est que le monde des yeshivot prenne avec le même sérieux le monde de la marshava, le monde de la pensée juive, qu'il prend le monde juridique, le monde de la halakha. Si déjà on a un peuple juif qui sera capable de s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'il a dans le ventre, de parler un langage de sens, on aura déjà fait un grand travail et c'est un vrai changement, un vrai changement des mentalités.
Une dernière question, Gabriel Lévy. Justement, ce travail sur le sens, est-ce que ce n'est pas aussi la possibilité pour Israël de modifier sa relation aux nations, finalement, la place d'Israël parmi les nations, est-ce qu'elle ne sera pas différente après le 7 octobre, notamment précisément sur cet apport de sens qui est un apport universel?
Les processus sont très longs. On est un peuple patient, on est un vieux peuple, donc les processus sont longs. Je ne pense pas qu'après le 7 octobre, d'un coup, le peuple juif va rentrer dans son rôle de lumière pour les peuples, etc. Déjà, il y a beaucoup de changements qui vont naître en interne, des changements d'unité, des changements peut-être de volonté de connaître un petit peu plus ce que signifie faire partie de ce peuple d'Israël. Il faut espérer que peut-être qu'après on aura quelque chose à dire aux nations. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le rapport aux nations depuis le 7 octobre, qui est une espèce un peu de solitude pour beaucoup de personnes en diaspora qui ne comprennent pas comment on ne peut pas voir le contraste si flagrant entre barbarie qui massacre et de l'autre côté entre un pays qui se défend, essaye de se défendre, etc. C'est à s'arracher les cheveux parfois. Ça a mis aussi, à mon avis, en valeur le caractère parfois caricatural et simpliste de la pensée progressiste, qui était une véritable tentation aussi dans la société israélienne, la pensée progressiste qui analyse tous les rapports humains comme des rapports de force entre oppresseurs et opprimés, toute la pensée postcoloniale dans laquelle le fort est forcément coupable. Je pense que la gauche israélienne se rend compte du caractère simpliste de cette grille d'analyse et s'en éloigne lorsque on a Eretz Nehederet, qui est une émission satirique israélienne une très bonne caricature des universités américaines, donc woke comme ça, très progressiste, alors que l'Eretz Nehederet est clairement de gauche. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, pas uniquement face au peuple mais aussi face aux idéologies ambiantes aujourd'hui qu'on a dans le monde, qui est par exemple cette idéologie progressiste. À mon avis, il y a une prise de distance en se disant, écoutez, là, c'est une idéologie qui est trop simpliste et qui devient caricaturale, qui ne permet pas d'analyser le réel de manière juste.
Alors, toute dernière question, parce que ça occupe beaucoup, disons, les gens qui sont parfois critiques vis-à-vis d'Israël. Est-ce que, justement, cette prise de conscience générale de ce qui se passe, du sens des choses, ne va pas aussi impliquer une modification du comportement vis-à-vis de la question palestinienne? Gabriel Lévy, question un peu large en quelques minutes qui nous restent.
Bon, premièrement, je me sens moins légitime pour parler de ça parce que c'est une analyse politique. Je ne suis pas forcément le meilleur analyste pour ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a clairement, à mon avis, une prise de conscience de la barbarie des personnes avec qui sont face à nous. Les sondages aussi qui montrent le soutien, y compris dans Yehuda Veshomron, y compris en Cisjordanie, les soutiens à ce qui s'est fait le 7 octobre par rapport au Hamas, c'est des choses que la société israélienne voit. Donc je pense que c'est des choses qui vont avoir un impact. Je pense que oui, c'est les prochaines années ne seront pas forcément des années où il y aura une main tendue, naïve, mais des années où on devra gérer le fait d'être face à une population qui est si profondément endoctriné, et comment faire pour arriver à dénouer ce sac de nœuds.
Merci beaucoup. Merci Gabriel Lévy d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté ce partenariat. Donc, on salue évidemment tous ceux qui le suivent Chauffard également. Merci pour votre attention et à bientôt sur Mosaïque et sur Chauffard pour d'autres vidéos, d'autres rencontres. Merci à tous.
À très vite.